Bonjour Peter Maurer.
Bonjour.
Vous êtes le président du Comité international de la Croix-Rouge. Alors vous êtes récemment rendu au Soudan il y a une dizaine de jours, vous en revenez. C'est un pays en plein chaos rapidement, 3 ans et demi de guerre civile, des dizaines de milliers de morts, 4 millions de déplacés au total. Qu'est-ce que vous avez pu entendre? Qu'est-ce que vous avez pu voir sur place?
Les témoignages qu'on entend sont des témoignages d'abord de peur des gens, de violence qui vient des acteurs armés. C'est des populations qui ont été chassées de leur village, de leur maison, qui ont vu leur maison brûler, leurs enfants violés, les femmes violées. C'est des récits de cruauté qui nous parviennent. Et puis, c'est extrêmement difficile de bien comprendre quelle est la dynamique, mais il est clair que les déplacements continuent et nous préoccupent.
Donc il y a notamment 1 million de réfugiés. Le cap du million de réfugiés en Ouganda a été franchi récemment. On a également 400 000 réfugiés déplacés au Soudan. Parmi les témoignages, notamment le HCR et des ONG, parlent d'actes de barbarie. Est-ce qu'on peut dire là-bas qu'on est dans une situation pré-génocidaire?
Bon, nous, on évite toujours de mettre des labels sur ces situations. On voit dans nos interactions avec les groupes armés qu'il y a aussi des efforts qui sont faits pour arrêter ces dynamiques de violence. Donc, c'est pas seulement le blanc et le noir qu'on est en train de voir, ou plutôt le noir dans ces développements. On a eu des actes de guerre qui n'ont pas été accompagnés de déplacements massifs. Donc, de plus en plus, on voit une situation un peu plus différenciée. Mais il est clair que la situation reste néanmoins extrêmement sérieuse. Comme vous l'avez décrite, c'est des populations qui ont été déplacées en masse et qui ont des récits de violations du droit international humanitaire qui nous préoccupent et qui nous font intervenir auprès des parties.
Et justement, alors, comment on peut agir dans cette situation-là?
On est très présent sur le terrain, on est parmi les seules organisations avec MSF aussi qui sont actifs dans l'ensemble du pays, on connaît les acteurs, on est souvent à niveau local très branché sur les acteurs armés et on essaye de nous engager avec eux pour leur faire comprendre l'effet dévastateur que leur comportement puisse avoir. Et exactement, dans ces dialogues et dans ces actions, on voit qu'il y a quand même peut-être aussi une certaine conscientisation de ces acteurs, de leur acte dévastateur. En même temps, je constate que les problèmes humanitaires sont sérieux. C'est un pays qui souffre la dégradation économique, mais aussi la violence qui détruit les infrastructures. Les services sociaux ne sont plus accessibles pour les gens. Et donc,
accès
cela
aux
intervient.
Soins, notamment.
Tout à fait. Et puis, ça intervient dans un moment où les populations sont déracinées et de toute façon ont des difficultés à avoir ces soins.
Une autre crise dont on parle somme toute très peu, c'est la crise au sud du Congo-Brazzaville, dans la région du Poule. Très peu d'informations car il est difficile d'y travailler là-bas, tant pour les humanitaires que pour les journalistes. À quel point est-ce que là-bas ça se joue à huis clos aujourd'hui?
Comme toujours, le CICR a une ambition de négocier les accès à toutes les populations dans les situations de crise. On est concerné, on est inquiet aussi quand ces nouvelles nous parviennent. Donc à chaque fois et à chaque reprise qu'on est confronté à des rumeurs, à des indications de développement difficile pour les populations civiles, de violences qui se sont en train de se passer, on essaye de négocier des accès. C'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui aussi.
Vous avez aussi effectué, Peter Maurer, au mois de juillet, une mission au Yémen. 2 ans et demi de guerre là-bas, 8500 morts au moins, ce sont les chiffres officiels, près de 50 000 blessés selon l'OMS. Ça se passe dans une relative indifférence générale. Est-ce qu'on assiste aujourd'hui au même scénario humanitaire que ce qui se passe en Syrie depuis plus de 6 ans?
En effet, le Yémen est un autre exemple où la durée de la violence, de la guerre, de destruction d'infrastructures cruciales, les distributions d'eau, la distribution d'électricité, les hôpitaux sont attaqués,
45% aujourd'hui des hôpitaux seulement qui fonctionnent dans le pays.
Oui, et c'est encore optimiste si on dit 45% sur le pays. J'ai visité Thaïs où il y a le nombre est bien inférieur. On est en dessous de 20% des facilités hospitalières qui sont encore en fonction. Alors pas de surprise qu'en plus de la violence, à plus des difficultés que le pays a connues chroniquement déjà, on est confronté aujourd'hui à une épidémie
de choléra
qu'on n'a pas eu vu dans ces dimensions depuis longtemps. Donc
plus la famine qui menace également.
Plus la famine qui menace, c'est-à-dire les pénuries nutritionnelles dans passablement de segments de la population yéménite. Donc c'est une situation qui est dans un cercle vers le bas pour les services sociaux. Et puis comme vous le dites à juste titre, le Yémen, le Soudan du Sud et d'autres sont quand même des conflits qui nous font aussi des soucis parce qu'ils ont disparu du radar de la communauté internationale et des soucis. Et donc, c'est aussi difficile en plus de générer l'intérêt qui doit être non seulement un intérêt humanitaire, mais aussi politique. Donc, un intérêt des acteurs politiques à trouver des solutions politiques.
Alors,
à ces questions.
À ce propos, une soixantaine d'ONG concernant le Yémen, dont Human Rights Watch et Amnesty International, cette semaine ont demandé l'ouverture d'une enquête internationale indépendante à l'ONU sur ces violations des droits de l'homme qui sont commises au Yémen, tant par la coalition menée par l'Arabie Saoudite que par les rebelles. C'est un vœu pieux, évidemment, mais est-ce que c'est réellement possible dans cette situation-là ?
Bon, je pense chacun a son rôle dans la communauté internationale. Nous, on essaye de couvrir l'espace plutôt confidentiel et les efforts de changement de comportement. D'autres sont plutôt axés à faire comprendre à la communauté internationale qu'il faut des processus de redevabilité pour les exactions qui ont été commises dans ces guerres. Si nous, on se mettait aussi à être les avocats de ces processus, on perdrait probablement les accès qu'on a sur
au terrain.
Ouais. Donc, on est aussi toujours un peu confronté dans le dilemme de quoi peut-on parler publiquement et où est-ce qu'on a l'espoir par notre manière de travailler, notre méthodologie d'assister et de protéger les populations d'une manière efficace, au moins dans un certain espace dans lequel on est actif.
Alors à propos de cette protection de la population, on le sait, en Syrie, officiellement 330 000 morts, 6 années et demie de guerre, 5 millions de Syriens qui sont réfugiés à l'étranger, et surtout 6 millions de déplacés dans le pays, dans des camps. Comment survivent aujourd'hui ces 6 millions de déplacés dans leur propre pays ?
Ce que je constate, c'est que malgré tous les efforts d'accès aux populations, de services qu'on rend sur l'eau, sur la santé, sur les services nutritionnels, sur les maisons, sur tout, ce qui représente l'humanitaire, en même temps, la situation se dégrade et ça montre que les dynamiques de violence et de conflit sont plus vivantes, plus importantes que notre capacité de négocier des accès, d'avoir le consentement des parties au conflit. Et donc, ça nous continue à nous préoccuper. C'est une situation incroyable si vous réfléchissez, et je le fais toujours quand je suis devant un public, imaginez la moitié de la France en déplacement forcé. C'est incroyable, n'est-ce pas ? Et c'est ce qui est en train de se passer en Syrie.
Une dernière question, Peter Maurer, à propos des flux migratoires, notamment ces migrants qui passent par la Libye. Le président français avait la volonté d'installer des centres d'enregistrement de demandeurs d'asile en amont de la Libye, au Tchad et au Niger. En Libye également, situation qui semble difficile en raison du chaos sécuritaire. Malgré tout, est-ce que ce dispositif global vous semble réaliste ?
Ce que je constate, c'est que pour le moment, on n'a certainement pas trouvé la formule magique qui permet d'avoir un consentement d'une perspective humanitaire, politique et sécuritaire sur comment gérer ce genre de crise. C'est légitime de proposer toute série de mesures. Moi, je me fais des soucis sur les gens qui sont dans ces centres auxquels on n'a pas encore partout accès. On visite certains des migrants. Mais il est clair que nous devrons augmenter nos activités et avoir aussi le soutien respectif des pays qui veulent que ces centres se font au long des routes migratoires pour pouvoir mieux assister et protéger les populations vulnérables.
Merci Peter Maurer, merci d'avoir été l'invité de RFI.
Merci beaucoup pour votre intérêt.